France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pirate Party is a really good name.
Je pense que le nom pirate est vraiment bon. L'industrie du divertissement a fait une erreur stratégique en stigmatisant tous ceux qui téléchargeaient illégalement.
Nous sommes en train de pirater tous les niveaux de la politique tchèque. Donc maintenant, nous nous concentrons sur les élections européennes où nous comptons recueillir 20% des voix.
Si le parti pirate veut continuer à avoir du succès, il va avoir du mal à garder tous ses principes originaux. Et s'il renonce à leurs priorités de base, il risque de perdre leur dynamique.
Qui sont-ils, ces pirates qui ont décidé de hacker le monde politique ? Peu connu du grand public, le mouvement a pourtant essaimé dans une quarantaine de pays. Et demain, les 10 partis pirates sur les 12 de l'Union européenne vont se réunir à Luxembourg. Ils doivent signer une déclaration commune en vue des élections européennes de mai prochain. Leur devise, liberté, démocratie, partage. Leur source d'inspiration, la cyberculture. Ils pratiquent l'horizontalité décisionnelle, la transparence, le partage du savoir et de la culture et la participation citoyenne. Et ils mettent en avant la défense des libertés fondamentales sur Internet comme dans la vie quotidienne. En France, le parti pirate a émergé en 2006 en réaction à la loi DAFSI sur les droits d'auteur et les droits voisins. Il envisage aujourd'hui de présenter une liste aux européennes. Et c'est justement au Parlement européen que le parti s'est fait le plus entendre récemment en plaidant pour une réforme du droit d'auteur plus favorable aux usagers d'Internet. Il n'appartient pas au parti pirate de se prétendre compétent sur tous les sujets de la vie publique, peut-on lire sur le site français. Ce qui n'empêche pas le parti pirate d'avoir de l'ambition puisqu'il propose aux citoyens de s'engager dans un nouveau projet de société. Parti pirate, immersion dans les cyberpartis européens, c'est un reportage signé Anne Fauquemberg. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Florie Marie, porte-parole du Parti pirate français. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Arthur Renaud, chercheur à l'Université de Rennes, membre du laboratoire AREN, spécialiste du Parti pirate français, est en duplex de Rennes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Nous allons écouter ensemble le reportage d'Anne Fauquemberg. Anne, les partis pirates sont nés de la révolution numérique, mais quand on a dit ça, ça n'aide pas tout à fait à les situer. Où se placent-ils sur l'échiquier politique ?
Question complexe parce que ce sont des structures un peu hybrides, ces partis pirates. Ils se sont constitués directement sur Internet, sur des forums, parce que les personnes ne se reconnaissaient plus dans les partis traditionnels. Des pirates très marqués par la cyberculture, les valeurs de liberté, de transparence, de partage des connaissances. Vous en avez parlé, Aurélie. Ce qui fait que les partis pirates ne se reconnaissent pas non plus dans un jeu politique binaire. Vu de l'extérieur toutefois et à l'écoute des paroles recueillies dans ce grand reportage, on serait tenté de les placer dans la tradition du libéralisme politique, des pirates qui s'inscrivent sur un spectre qui va des libertariens, ceux qui considèrent que l'État doit se contenter de protéger les droits fondamentaux, jusqu'aux libertaires de gauche, avec au milieu évidemment une palette de positionnements possibles.
Alors pour ce grand reportage, Anne, vous êtes allée au Parlement européen où siège une députée pirate, au Luxembourg où deux pirates viennent d'entrer au Parlement, mais également en République tchèque, où le parti pirate est devenu le premier parti d'opposition avec 22 députés et il ne cache pas ses ambitions aux élections européennes. Nous partons donc tout de suite à Prague, où les pirates sont populaires.
Je m'appelle Lukáš, j'étudie à l'université Charles dans les relations internationales. C'est vrai que le parti pirate essaye d'introduire des mécanismes plus modernes dans le pays. Par exemple, ils font la promotion du vote en ligne et moi je trouve que c'est bien pour les personnes à mobilité réduite. C'est une bonne chose.
Bonjour, je m'appelle Michael. Je viens d'une petite ville au sud de la Bohême, à la frontière avec l'Autriche, et je suis ici à Prague pour étudier. Les pirates sont complètement nouveaux au Parlement, mais aussi dans le champ politique. C'est un jeune parti qui ne traîne pas de scandale de corruption, ils sont clean, donc je suis d'accord avec eux.
C'est un parti qui est soutenu seulement par les jeunes.
Je dirais principalement, mais pas seulement. Mon père a voté pour eux aux dernières municipales, mais pas ma mère.
«
Le président du parti pirate tchèque est une personnalité. Âgé de 39 ans, Ivan Bartoš est chanteur, mais aussi accordéoniste. Docteur en sciences de l'information, il a travaillé dans l'industrie des services informatiques. Identifiable à ses dreadlocks blondes et son visage aux traits aiguisés, il est pirate depuis la création du parti, il y a 10 ans, en 2009. Nous le rencontrons dans le bouillonnant Parlement tchèque à l'occasion d'un vote sur le surendettement.
Nous sommes en train de pirater tous les niveaux de la politique tchèque. Nous avons un sénateur, 22 députés au Parlement, d'où je vous parle actuellement. Nous avons au moins 350 représentants au niveau municipal, dont le maire de notre capitale, Prague. Et nous gouvernons aussi dans des coalitions, dans des grandes villes, comme Ostrava, Brno, ou encore Jablonec nad Nisos, 50 000 habitants, là où je suis né, au nord du pays, en Bohême. Donc maintenant, nous sommes un parti national, et nous nous concentrons sur les élections européennes où nous comptons recueillir 20% des voix. Nous construisons une politique moderne, centriste et libérale. Ça veut dire qu'en dépit de notre histoire qui transporte sa part de culpabilité, mais aussi tout ce qui s'est produit après la révolution de velours, nous, on avance. Parce qu'on ne peut pas toujours regarder derrière les graves erreurs des gouvernements précédents. Donc nous voulons une République tchèque moderne, éduquée, un pays libre qui prend soin, qui permet à tout le monde de révéler son potentiel pour qu'on puisse avoir une économie qui tourne et qu'on puisse aussi être solidaire avec ceux qui n'y arrivent pas. La plupart d'entre nous sommes nés dans les années 70 et 80, donc nous ne sommes pas complètement des geeks, mais nous ne sommes pas non plus surpris qu'Internet fonctionne, contrairement à la plupart des politiciens qui vivent encore à l'ère de l'imprimé. Ces personnes ne comprennent pas que nous sommes dans la société de l'information depuis les années 70 et qu'aujourd'hui, cette société, eh bien, elle doit se transformer. Allez, disons le mot. En société de la sagesse, parce que toutes les informations sont disponibles grâce aux nouvelles technologies. Il suffit de s'en emparer pour rendre la vie meilleure.
Quelle est votre pratique du pouvoir? Comment, par exemple, ici au Parlement, vous votez les textes? Avec qui?
Le monde, en quelque sorte, mais aussi les médias, sont piégés par la division politique entre la droite et la gauche, alors que celle-ci est totalement obsolète. Ici, par exemple, des partis qui se disaient de droite sont en train d'augmenter les impôts, ce qui n'est pas exactement une politique de droite. Donc, nous, quand nous pensons qu'une proposition du gouvernement est bonne, nous la soutenons et nous votons pour. Si ça ne nous convient pas, nous essayons de la changer lors des lectures au Parlement ou alors nous sortons notre propre proposition. Mais pour tout ce qui est fondamental pour nous, à savoir les droits humains, le droit, le partage et l'accès à l'information, l'équité entre les personnes, l'éducation, la lutte contre la corruption, eh bien nous assumons d'être radicaux parce que nous ne partons pas de zéro sur ces sujets. Et en République tchèque, il y a beaucoup à faire pour certaines couches de la société afin de rattraper la moyenne d'un pays européen libéral. V rájezdi se otvírají, ven
vychází gorila, aby pravdu upravila a tu tvoji zabila. La lutte contre la corruption est dans l'ADN des pirates tchèques, marquée par les affaires qui concernent le parti ANO, actuellement au pouvoir. Dans ce clip de campagne qui date des législatives de 2017, nous entendons Ivan Bartoš s'en prendre à Andrej Babiš, le Premier ministre, et fait référence au scandale du nid de cigogne, un détournement présumé de fonds européens que les pirates et leurs 900 membres ont contribué à faire sortir.
Je m'appelle Petri Hübner. Je suis à la tête de l'Institut des études politiques à l'Université Charles de Prague. Mes recherches portent sur la politique locale. Les pirates ont un imaginaire différent sur le fonctionnement de la politique. Ils veulent que tout soit transparent, ouvert. Ils discutent entre eux sur leur site internet qui est aussi public.
Vous avez la possibilité d'y trouver beaucoup d'échanges et des documents. Par ailleurs, ils ne sont pas familiers avec la pratique du cumul des mandats. Avec le fait, par exemple, d'être membre d'un conseil municipal et aussi élu au Parlement européen ou à la Chambre des députés tchèques. C'est un parti qui a ses propres codes.
Comment vous voyez évoluer ce parti ? Alors c'est un parti qui dit qu'il prend les décisions de façon très horizontale, de façon transparente, mais dans le même temps, on voit des leaders charismatiques apparaître. Donc finalement, est-ce qu'ils ne vont pas évoluer comme n'importe quel parti politique ?
Les politologues tchèques sont très sceptiques. Parce que quand vous regardez l'histoire de la politique, selon moi en tout cas, c'est très difficile de trouver quelque chose de neuf, qui fonctionne mieux que le système traditionnel des partis. Moi je suis sceptique au sujet de toutes ces nouvelles aventures politiques. Si le parti pirate veut continuer à avoir du succès, il va avoir du mal à garder tous ses principes originaux. Et s'ils renoncent à leurs priorités de base, ils risquent de perdre leur dynamique. Concernant le rôle des figures charismatiques du parti, c'est vraiment intéressant. Prenons le président du parti pirate tchèque, Ivan Bartoš. Il est très populaire dans les sondages. Il fait des plateaux télé et il est capable de tenir l'argument à tous les politiciens. Mais Ivan Bartoš préfère rester à l'extérieur des fonctions exécutives. C'est très clair. Il est le visage du parti, le porte-parole, mais ce sont d'autres pirates qui prennent les positions exécutives. Il y a aussi une autre personnalité charismatique. C'est le sénateur, M. Michalek. Il est très populaire dans la société. Il est reconnu comme un partenaire de coalition, par exemple. Mais il a eu des problèmes avec la communauté pirate. Donc ça montre que le futur ne sera pas si simple pour ce parti.
À Prague, la capitale tchèque, peuplée d'1 900 000 habitants, le parti pirate est à l'épreuve d'un mandat exécutif de premier plan. Depuis le mois d'octobre 2018, Zdeněk Hrib est le maire de la ville qu'il dirige en coalition avec un parti de citoyens et trois petites formations de centre-droit. Il est au parti pirate depuis 2013 et ce spécialiste de la sécurité informatique dans le domaine de la médecine réalise dans la ville son tout premier mandat électoral.
Évidemment, nous aussi, nous pouvons faire des fautes, mais nous essayons de rester humbles. L'avantage, c'est que nous pouvons tirer les leçons des autres expériences pirates en Europe, mais aussi des autres partis et des activités politiques en République tchèque. Par exemple, si nous regardons les Verts, nous voyons qu'ils ont presque disparu aujourd'hui dans le pays. Nous, nous avons eu le temps de mûrir, de réfléchir et de préciser quelles sont nos attitudes, nos approches, nos principes. Notre évolution n'a pas été précipitée. Nous ne sommes pas une bulle. Nous avons un soutien stable à travers le pays. Nous ne sommes pas loin de devenir le deuxième parti politique de la République tchèque. Nous maintenons toujours le contact entre nos élus, notre base électorale et les membres du parti pirate. Le plus important consiste à ne pas oublier les principes dont nous sommes issus. Nous organisons des appels d'offres qui sont publics. Nous avons un registre de contrats qui est public. Nous avons des comptes bancaires ouverts.
Au Luxembourg, le parti pirate existe aussi depuis 10 ans et il vient de faire entrer au Parlement 2 députés, dont Sven Clément. Âgé de 30 ans, cet ancien socialiste a fait passer sa formation de 14 membres en 2009 à 450 aujourd'hui. Il refuse de voir le parti pirate comme un parti confidentiel.
Cette vision des pirates comme antisocial caché dans les caves, ça résonne toujours très très bien avec les autres partis. Et pourtant, on a bossé pendant 10 ans pour arriver à un stade où on a un programme qui englobe beaucoup plus que ces thèmes purement digitales et qui englobe surtout des questions sociétales très profondes. Si on parle de participation démocratique par biais de pétitions, d'initiatives populaires, si on parle de transparence des budgets d'État, si on parle de plus d'initiatives de l'État pour permettre une vie digne à tout le monde, ce sont des thèmes qu'historiquement on a retrouvés dans tous les partis. Les libéraux voulaient toujours plus de participation citoyenne, la gauche voulait toujours une vie digne pour tout le monde. Les seules différences, c'est qu'ils déclinent ça toujours à travers leur vision idéologique, pendant que les pirates ont compris qu'en 2018-2019, on ne peut plus décliner la vie digne que par un travail de 40 heures par semaine pendant 40 ans, mais qu'on doit le décliner dans un système de précariat, qu'on doit le décliner dans un système d'auto-entrepreneurs virtuels, qu'on doit le décliner dans un monde où on n'a plus cette garantie de 40 heures par semaine pendant 40 ans, et donc qu'on doit trouver des nouvelles solutions aux mêmes problèmes qui ont fait naître les mouvements des socialistes, la gauche ou des libéraux dans le temps. Les pirates, en fait, déclinent juste les grands thèmes, les grands problèmes historiques d'une nouvelle manière.
Qu'est-ce que ça veut dire être membre du parti pirate par rapport à un parti qui aurait une forme plus traditionnelle ?
On a plus de possibilités. Forcément, avec des structures plus petites, avec des, comme on dirait dans l'informatique, des structures agiles, on a des procédures participatives un peu partout. Au lieu d'avoir un fichier Word qu'on envoie par email entre les trois personnes qui ont le droit de rédiger le programme, on met un ISAPET ou on met un wiki où tout le monde puisse participer directement. Au lieu de prendre des décisions que à huis clos dans un comité à cinq, on fait le comité via Mumble en conférence téléphonique ou, si on veut du temps réel, ou on fait via des forums comme le Discours ou d'autres outils. Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés, d'entreprises imitent en fait ce que le Parti Pirate a déjà commencé en 2009, de montrer que la co-décision, que la décision transparente, que la participation de la base des membres ou des employés permet de trouver des meilleures solutions à des problèmes plus complexes avec une rapidité et avec une efficacité plus importante. Au sein du Parti Pirate, chaque membre a à la base le même pouvoir. C'est juste, la seule différence, c'est on doit le prendre, on doit s'engager, on doit s'auto-responsabiliser un peu plus que dans un parti traditionnel.
Les pirates français utilisent le terme de démocratie liquide pour qualifier leur mode de fonctionnement. Est-ce que c'est le cas ici au Luxembourg ? Et puis il y a aussi ce terme de swarm qu'utilisent les pirates tchèques. Swarm, ça veut dire l'essaim en anglais, voilà, qui est une façon de qualifier la façon dont vous fonctionnez. Qu'est-ce que vous utilisez ici au Luxembourg et est-ce que ça veut dire la même chose ?
La démocratie liquide, et je suis désolé pour mes amis français, ils voient trop grand. Donc je leur conseillerais personnellement de s'orienter plutôt vers ce que les Tchèques disent lorsqu'ils parlent de swarm, d'écouter la base, de leur permettre de participer à chaque décision lorsqu'ils le souhaitent, mais de ne pas se bloquer sur l'invention d'un système de démocratie parfait.
Officiellement, 16 partis pirates sont créés au sein de l'Union européenne, mais seulement 12 sont actifs, à des degrés divers d'implication. Seuls les Tchèques, les Luxembourgeois et les Allemands ont des élus nationaux. Les Espagnols et les Français se contentent de quelques représentants au niveau local. Des pirates qui se fédèrent grâce au Parti Pirate Européen. Et c'est une jeune femme tchèque aux cheveux rouges qui en est la référente.
My name is Marketa Gregorova. I'm 26 years old.
Je m'appelle Marketa Gregorova. J'ai 26 ans. Je suis chez les pirates depuis 6 ans. Je suis entrée au parti à l'âge de 18-19 ans. J'étais alors à l'université et j'ai rencontré une personne qui était déjà pirate. Nous étions toutes les deux nouvelles dans la ville où nous étions et nous sommes devenues amies. Je les ai rejoints d'abord par curiosité et puis finalement je suis restée. J'ai vraiment pris goût à l'activisme. Il y a 2 jours, j'ai été choisie lors de notre primaire interne pour être la numéro 2 sur la liste tchèque pour les élections européennes.
Vous êtes la présidente du Parti Pirate Européen. C'est quoi le Parti Pirate Européen ? Pourquoi vous avez ce parti en plus de tous les partis pirates en Europe ?
Well, the European Pirate Party is right now an umbrella organization.
Actuellement, le Parti Pirate Européen est une organisation parapluie qui nous permet de nous connecter entre pays. Au départ, la structure a été créée parce que les pirates suédois ont eu des sièges au Parlement européen. Mais comme nous n'avons pas eu de bons résultats, par exemple en 2014, et puisque nous n'avons qu'une seule eurodéputée pirate actuellement, c'est Julia Reda, eh bien, ensuite, ça s'est transformé en une plateforme qui nous permet de nous soutenir entre nous, au niveau de l'argent, parce que bien sûr, chaque membre cotise. Et puis nous rédigeons notre programme commun pour les européennes, nous parlons, nous travaillons sur notre campagne commune, donc c'est vraiment de l'entraide, et c'est pour ça que je suis là.
Vous allez réunir tous les pirates européens le 9 février à Luxembourg, où vous allez présenter une déclaration commune pour les prochaines élections européennes. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'il y aura à l'intérieur de cette déclaration et puis plus globalement ce que vous prônez pour l'Union européenne ?
We worked past half a year or maybe a year. There were several working groups.
Depuis 6 mois, un an, il y a eu plusieurs groupes de travail. Et je suis vraiment contente parce que nous avions déjà un programme commun en 2014, mais il était essentiellement centré sur les affaires numériques et sur les droits d'auteur. Donc des sujets vraiment pirates, mais pas beaucoup plus. Cette fois-ci, nous allons plus loin et nous essayons de couvrir tous les domaines pertinents des parties déjà établies. L'environnement, les transports, les soins de santé, les affaires sociales, le numérique, bien sûr, et l'international. Chaque parti est libre d'avoir sa version nationale qu'il peut approfondir. Par exemple, en République tchèque, nous avons des problèmes spécifiques de corruption. Vous avez probablement entendu parler de notre Premier ministre, M. Babiš, qui est poursuivi pour des détournements de fonds. Et puis un autre exemple, en Allemagne, les pirates ne peuvent pas faire avancer l'énergie nucléaire parce que la logique du pays est différente, alors qu'en République tchèque, notre parti soutient le nucléaire. Mais en gros, nous nous sommes débrouillés quand même pour mettre en avant le maximum de nos points communs.
Strasbourg, agora du Parlement européen. Parmi les 751 eurodéputés, Julia Reda a été la seule élue du Parti Pirate en 2014. Il lui reste donc à peine 3 mois avant la prochaine élection européenne de mai, l'occasion de faire le bilan de son travail et de voir comment elle est perçue par les autres formations politiques.
On va se mettre un peu par là pour être un peu plus à l'aise. Donc là, vous sortez de quoi ?
Présider les votes.
Donc Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen, vous faites partie du groupe SED.
Oui, c'est ça.
Et vous appartenez au Parti socialiste en France.
C'est ça.
Donc je fais un reportage sur le Parti pirate. Mm-hmm. Il y a une seule eurodéputée pirate dans le Parlement européen, oui. C'est Julia Reda. Mm-hmm. Vous la voyez où quand vous êtes en train de présider dans le Parlement ? Elle est assise où ?
Elle est vers les Verts. Elle est en marge, vers le couloir, donc vers les escaliers, à peu près en milieu d'hémicycle. Donc visuellement, quand on préside, pratiquement en face.
Qu'est-ce que vous avez pensé de sa mandature à Julia Reda ? Quel regard vous portez en tout cas sur son travail ?
Alors, c'est vrai qu'on avait tous, moi y compris, quand on nous a annoncé l'arrivée de quelqu'un du Parti Pirate, un peu sentiment qu'il y allait y avoir une sorte de déferlement, un changement de pratique qui soit très très visible dans cette grande maison, parce que ce qui nous avait été dit, il n'y a pas de pirates vraiment référencés et lus en France. Donc, on nous avait dit il y a vraiment des pratiques du mandat qui sont différentes, avec un fort soutien extérieur par les réseaux, par l'informatique, et donc à la fois une focalisation sur certains sujets et puis une forte démocratie participative électronique, on va dire. Et donc, on s'est dit bah, pourquoi pas, parce que c'est vrai que cette maison, quelquefois, elle est un peu, voilà, un peu poussive, elle a ses règles, ses rules of procedures, comme on dit, et donc c'est quelquefois un peu compassé, on va dire. Et donc, on s'est dit ça, et c'était plutôt une bonne nouvelle. Et puis finalement, je trouve qu'elle est rentrée dans son mandat, finalement, et il y a assez peu de différence dans ses pratiques que nos pratiques à nous. Il y a une petite distinction, peut-être que j'anticipe une de vos questions, c'est qu'elle a décidé de placer à l'extérieur, de délivrer à l'extérieur des documents qui normalement ne sortent pas. Voilà. Elle a pris l'habitude de sortir ce qu'on appelle les tableaux 4 colonnes. Donc, c'est des tableaux 4 colonnes qui répertorient au moment des trilogues les positions du Parlement à côté de la position de la Commission, à côté de la position du Conseil. Et la quatrième colonne sert à faire le compromis. Et généralement, c'est des choses qui se passent plutôt derrière des portes fermées, parce que c'est des négociations qui peuvent paraître un peu ardues, enfin pas toujours très intéressantes pour l'extérieur, d'autant qu'elles durent longtemps. Et Julia Reda l'a fait pour plusieurs négociations. Elle a sorti ces tableaux, ce qui me fait penser que finalement, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça permet de confronter, de voir qui apporte quoi dans la discussion. Et quand on fait un compromis qui va finalement être celui qui va être voté à la fin par les deux institutions, ça vaut quand même le coup de voir comment ça a évolué et qui a apporté quoi dans la discussion. Donc c'était pas forcément une mauvaise chose, même si c'était pas tout à fait autorisé.
Julia Reda a 32 ans et en Allemagne, elle aussi a commencé par militer chez les sociodémocrates. Mais le SPD a été incapable de s'emparer de la révolution numérique, selon elle. Au Parlement de Strasbourg, elle a défendu la neutralité d'Internet, la protection des données personnelles qui a abouti à un règlement, le RGPD, actuellement en vigueur en France. Et depuis plusieurs mois, elle contribue, non sans polémique, à la révision de la directive copyright, la législation sur le droit d'auteur en Europe. Julia Reda suit l'évolution des discussions pour le groupe des Verts et elle négocie des compromis avec le rapporteur. Elle assume le nom de son parti et d'être la figure de la contradiction.
Je pense que le nom pirate est vraiment bon, parce qu'il a été inventé à l'origine par nos détracteurs, en particulier l'industrie du divertissement. Dans les années 90, quand on a commencé le débat sur les plateformes de partage de fichiers, comme Napster ou Kazaa, ou les infractions aux droits d'auteur, cette industrie a commencé à appeler pirates les personnes qui téléchargeaient leurs programmes. Et moi, je pense que c'est vraiment une comparaison ridicule, parce que vous savez, les pirates utilisent la violence pour prendre aux autres. Donc, c'est une comparaison étrange. Et puis en même temps, dans la culture pop, le pirate est considéré comme une personne cool. Il y a beaucoup de films sur les pirates, des livres aussi. Donc, dans un sens, nous avons adopté ce nom pour montrer que le pirate est en réalité très à la mode. L'industrie du divertissement a fait une erreur stratégique en stigmatisant tous ceux qui téléchargeaient illégalement, parce que la plupart des gens ne font pas cette association négative avec le mot pirate. Ils pensent juste que c'est quelque chose de cool.
Avec cette bataille que vous avez menée sur la directive copyright, qu'est-ce que vous avez appris sur le plan politique?
Je pense que la réforme du droit d'auteur est un sujet très complexe, qu'elle crée aussi des opportunités, parce que dans chaque parti, il y a des soutiens et des détracteurs de ce texte. Pour la plupart des sujets, il y a une distinction claire entre la gauche, les libéraux, les sociodémocrates, les verts, etc. Mais dans l'univers numérique, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Concernant la réforme du droit d'auteur, par exemple, il y a des personnes très en avance dans presque tous les groupes. Ça a davantage à voir avec l'expérience personnelle de chaque individu. Si vous avez grandi avec Internet, ou si vous avez été employé dans une profession qui vous montre les limites de la législation actuelle. Par exemple, des universitaires, des bibliothécaires et des professeurs nous ont soutenus. Ils savent combien c'est difficile de se conformer à la loi d'aujourd'hui. Ça m'a permis de travailler avec des personnes de différents groupes politiques parce que vous pouvez avoir une approche libérale ou alors carrément communiste et arriver à la même conclusion qu'il faut réformer le droit d'auteur. Pour moi, c'est plus intéressant de travailler sur ce sujet parce que vous pouvez convaincre individuellement les personnes de partager votre point de vue et de cette façon construire une majorité non traditionnelle.
Cette conception pirate qui consiste à voir la toile comme un espace neutre, parallèle et sans frontières divise dans le Parlement européen. En témoigne Jean-Marie Cavada, eurodéputé français, président de Génération Citoyen et qui siège dans le groupe des démocrates et des libéraux à Strasbourg.
Depuis une dizaine d'années, je m'occupe essentiellement, après avoir dirigé la commission des libertés civiles, des questions de contenu, c'est-à-dire la rémunération que les créateurs sur le sol européen doivent percevoir, et notamment par rapport aux géants du numérique. La commission des affaires culturelles à laquelle j'ai participé dans le précédent mandat de 2009 à 2014 a permis d'explorer cette question, mais elle n'a pas de pouvoir législatif. C'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers la commission des affaires juridiques, dont je suis maintenant vice-président, et son métier à cette commission, entre autres sur le sujet qui nous intéresse, et par rapport à la lutte contre les idées des pirates, eh bien, le sujet, c'est d'essayer de faire payer aux gens du numérique le juste prix de tous les contenus dont ils ont besoin pour faire leur commerce.
Sur cette réécriture de la directive copyright, qu'est-ce qui vous a opposé à l'eurodéputé pirate, Julia Reda ?
Non, mais d'abord, mettons-nous bien d'accord. Vous me parlez de Madame Reda. C'est une députée pirate. Elle est d'ailleurs sérieuse, elle travaille. Mais dans une philosophie qui est tout à fait incompréhensible. Voilà des gens affiliés au groupe des Verts, qui se sont battus, et avec raison, pour protéger les individus que nous sommes dans les données personnelles qui naviguent sur le digital. Et ils avaient raison, je me suis associé à eux, on a travaillé ensemble. Mais ça ne les gêne pas du tout que les données culturelles soient une marchandise qui soit libre, comme si les gens qui travaillent à la création n'avaient pas besoin de salaire, n'avaient pas besoin de rémunération, vous voyez ? Elle était assez sectaire. C'est-à-dire que quand elle est arrivée, cette femme pensait que nous posions des entraves à la liberté. Je lui ai dit d'ailleurs à deux ou trois reprises, vous savez madame, la liberté c'est avoir le choix entre des contenus sérieux. C'est pas avoir le choix entre des poubelles, de la non-existence informative ou du pillage créatif. C'est pas de la liberté. D'ailleurs vous-même quand vous lisez, vous choisissez les choses.
En même temps, vous avez dit qu'elle avait évolué récemment, qu'elle se rapprochait de vos positions. Quelle est votre analyse ?
Sur certains points, je pense que cette députée a pris, en effet, la mesure des dangers, de quelques dangers qui, visiblement, doivent hérisser certains de ses électeurs, en tout cas de ceux qu'elle fréquente. Et il y a eu un certain nombre de points sur lesquels nous avons, en effet, nous nous sommes retrouvés dans la mesure où, quand je disais une chose, elle disait « là, j'approuve M. Cavada parce que ». Mais je vous rassure tout de suite, hélas, ça n'est pas sur la majorité ni sur l'essentiel du problème. La différence de fond entre nous, c'est que moi je veux que les contenus soient payés à leur juste prix. Deuxièmement, que les plateformes agrégateurs et toute autre forme de tuyaux digitaux aient un statut d'éditeur avec la responsabilité juridique et financière des éditeurs. Et que troisièmement, ils payent leurs impôts là où ils gagnent de l'argent, ce qui n'est pas le cas. Je ne sais pas quel est l'avenir de ce parti, mais ce que je sais, c'est qu'il a contaminé beaucoup de Verts, y compris en France. Il n'y a guère que deux ou trois députés français qui sont conscients de cette affaire. Les autres, français, ne le sont pas. Votent avec les pirates. Le seul qui émerge du lot là-dedans, il y en a sans doute un ou deux autres, mais je n'en suis pas encore tout à fait sûr. Je vais dire que le seul en qui je peux avoir vraiment confiance sur ce sujet, c'est José Bové, probablement Karima Deli, mais pas tous les jours. Et on me dit qu'il y en a une troisième, mais je demande à voir. Par conséquent, vous voyez, ce sont des gens qui pourtant défendent les libertés en général. La défense des libertés, de façon, comme je dirais, théologique, il y a un moment où, au contraire, vous renversez la mer de sable sur votre tête. Et c'est ce qui se passe dans ces partis. Le pirate est un parti qui, comme l'encre sur le buvard, gagne tout le papier.
Bonjour.
Okay, on peut
Philippe Lamberts est eurodéputé belge. Il est le coprésident du groupe des Verts et il loue, au contraire, le travail de Julia Reda, qui était dans le bureau exécutif du groupe. J'ai fait la même
chose qu'avec Reinhardt. Par rapport au point de vue de Jean-Marie Cavada, par exemple, qui dit que finalement le pirate a contaminé les Verts, comme une feuille de buvard, parce que voilà, le pirate menace finalement la création culturelle. Comment vous vous positionnez ?
Comme c'est facile. J'ai entendu cette phrase au moins 100 000 fois, et c'est soit donner à Julia Reda des pouvoirs surnaturels. Je veux dire, c'est le joueur de flûte de Hamelin qui est capable de nous ensorceler et de nous faire abdiquer de notre intelligence. Je veux dire, je pense que tous les eurodéputés verts ont démontré que dans leur domaine respectif, ils sont capables d'une très grande technicité. J'ai fait de la régulation financière, d'autres font de la régulation du marché de l'énergie, d'autres élaborent les programmes européens de recherche, ce sont tous des dossiers extrêmement complexes. Et subitement, sur le dossier numérique, nous serions devenus imbéciles. Ça ne tient évidemment pas la route. Ce qui se passe, c'est que dans le dossier copyright, les choses sont beaucoup moins simples que ce qu'on voudrait nous faire croire. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire non, 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 nous avons constamment proposé, et c'est elle qui était en charge du dossier, mais nous, et donc elle jouit d'une majorité au sein du groupe, a constamment proposé des solutions alternatives, dont certaines d'ailleurs avaient été élaborées par des membres du PPE, c'est-à-dire le parti de droite dominant au Parlement européen. Alors elles ont été retoquées au sein du PPE à un moment, parce que, le lobbying a fait son travail, mais ce n'est même pas des solutions que les pirates ont inventées qu'on a avancées. On a avancé des solutions alternatives à celles qui étaient préconisées par les rapporteurs de la directive copyright pour atteindre le même objectif avec beaucoup moins de dégâts collatéraux. Et ça, ça a été retoqué. C'est là qu'on voit la malhonnêteté intellectuelle de ceux qui nous disent « Oui, en fait, vous êtes fait ensorceler par une pirate et cette pirate est quelqu'un qui veut la mort des artistes et des créateurs. » Si vous parlez avec Julia Reda, vous constaterez que ça n'est absolument pas cela.
Comment vous le voyez évoluer, ce parti, si on peut faire un petit peu de prospective, sachant que le maire de Prague est devenu pirate récemment, au Luxembourg, deux députés sont entrés au Parlement. On va vers plus de pouvoir pour les pirates ou c'est sporadique comme ça ?
C'est difficile à dire, c'est vraiment difficile à dire parce que les partis pirates semblent un petit peu des partis champignons. Donc, qui poussent vite et puis qui disparaissent. Je vous rappelle que les premiers élus pirates qu'on a eus venaient de Suède. Ben, ils ont fait une élection. L'élection suivante, ils n'existaient plus. Cette fois-ci, on a une Allemande. Est-ce qu'on aura encore quelqu'un venu d'Allemagne ? Je n'en sais rien. Je pense que s'ils deviennent un parti généraliste, le rapprochement avec les Verts, je ne vais pas dire est inéluctable, mais me semble assez, assez probable. Mais s'il reste un parti plutôt sectoriel,
ce qui
est le cas actuellement, mais on verra comment les choses se passent. En tout cas, moi, je vois nos points de ressemblance et je pense qu'il l'emporte largement sur nos éventuels points de divergence. C'est vrai que du côté des partis pirates, il y a une forme de libertarisme qui les rapproche plus des libéraux, mais en réalité, comme les libéraux sont plutôt les amis de la rente et du big business, forcément, ils ne peuvent pas se rapprocher. Et il ne faut jamais oublier d'ailleurs qu'il y a dans l'ADN des écolos une fibre libertaire. Et donc ça, ça nous rapproche de nouveau. Donc moi, je pense que la collaboration entre les pirates et les verts est inscrite dans les astres. Maintenant, on verra bien comment les choses se passent sur le plan électoral pour les différents partis pirates. C'est vrai qu'au moment d'urgence climatique et d'urgence sociale, les partis pirates semblent porter des problématiques qui ne sont pas au top. Regardez les marches pour le climat et les gilets jaunes, qui montrent un petit peu ce qui bouge dans la société aujourd'hui. Mais c'est peut-être plus ça que les libertés numériques, qui ne sont pas moins importantes, hein, j'insiste là-dessus, mais simplement dans l'opinion publique, un parti qui fait de ces thématiques-là sa préoccupation centrale court le risque évidemment d'apparaître comme décalé par rapport aux priorités de la société.
Parti pirate, immersion dans les cyberpartis européens, un reportage d'Anne Fauquemberg avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Retrouvons nos invités à Paris, Florie Marie, porte-parole du Parti Pirate français, et à Rennes, Arthur Renaud, chercheur à l'Université de Rennes, spécialiste du Parti Pirate français. Florie Marie, au Parlement européen, Julia Reda est donc affiliée aux Verts. Est-ce que ce rapprochement avec les Verts est si évident que ça? Parce qu'on a entendu, par exemple, dans le reportage en République tchèque, que les pirates là-bas soutiennent le nucléaire.
Ça paraît évident en France, oui, on est assez proche des Verts dans notre militantisme, dans nos idées, encore d'autant plus aujourd'hui parce que le changement climatique, l'environnement fait partie des points qui sont importants pour nous et ça fait partie des choses qu'on va défendre au niveau des européennes, autant en France que même au niveau européen, comme l'ont dit plusieurs pirates dans votre reportage. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, ça peut sembler un peu moins naturel. Moi je découvre beaucoup de choses, hein. Merci beaucoup pour ce reportage parce que j'ai découvert beaucoup de choses sur d'autres pirates. Je me concentre beaucoup sur le militantisme dans notre pays, mais c'est vrai qu'au niveau européen c'est transparent, hein, y a pas de problème, mais on a tellement de choses à faire ici que du coup c'est jamais évident. Mais vous le savez sans doute, moi j'ai été pendant un moment chez les écologistes aussi. Ce que je défendais chez les écologistes, je le défends toujours aujourd'hui au Parti Pirate de la même manière. J'ai pas changé de ligne là-dessus, c'est juste un autre engagement sur d'autres sujets un peu différents, un peu, j'ai envie de dire, je vais un peu plus loin sur certains sujets sur lesquels on travaillait, à mon humble avis, pas suffisamment chez les écologistes.
Alors, on peut peut-être faire une petite mise au point parce que ce nom, quand même, de Parti Pirate peut prêter à confusion.
C'est gênant. Hein.
Vous ne vous définissez quand même pas comme un parti anti-système ?
Non, justement, on se qualifierait pas de révolutionnaire. D'ailleurs, on a souvent cette discussion-là avec les nouveaux arrivants, parce qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants, surtout en ce moment. C'est très agréable de voir plein de nouvelles têtes comme ça. On se qualifie pas de révolutionnaire. Non, on est plutôt réformiste. En fait, justement, parti pirate. Le fait de pirater, quand vous avez un ordinateur, vous voulez pirater un ordinateur, vous allez d'abord, vous allez essayer de trouver le mot de passe, trouver le moyen de rentrer dedans pour pouvoir changer le système à l'intérieur. On va pas taper dessus avec une batte de baseball. Donc, le parti pirate, c'est pareil. On veut rentrer dans les institutions, on veut avoir des élus pour pouvoir modifier les choses de l'intérieur. Et c'est progressif, mais de toute façon, et ça je le répète suffisamment souvent, on l'entend suffisamment, la démocratie ça prend du temps. On doit, de vouloir tout changer comme ça d'un coup, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça n'a jamais fonctionné, ça fonctionne très rarement, et c'est pas souhaitable. On n'a pas envie d'user de violence pour pouvoir tout modifier. On veut vraiment faire les choses dans les formes, en tout cas en utilisant ce qui existe aujourd'hui pour changer les choses. Donc avoir des élus, c'est une première étape. On en a quelques-uns, on en a beaucoup maintenant en République tchèque, on en a quelques-uns aussi au Luxembourg, on en a quelques-uns en France aussi, on espère en avoir un peu plus. Mais c'est une première étape vers justement la modification. Donc on se sent pas anti-système, en tout cas c'est pas dans cette direction-là qu'on a envie d'aller.
Alors vous preniez l'image du piratage informatique en disant c'est pas violent, mais c'est illégal quand même. Donc vous avez envie de modifier le pays, quitte à s'affranchir des lois dans certains cas ?
Il y a des choses qui sont illégales et qui le deviennent, enfin qui ne le sont plus au bout d'un moment aussi. Donc, je dis pas qu'on veut devenir des criminels ni des délinquants, mais la loi elle évolue, et elle évolue seulement parce qu'on veut la faire évoluer. Donc il faut, pour que la loi évolue, il faut qu'il y ait des personnes qui la fassent évoluer. Donc à un moment, nous, on n'a pas le choix. On est obligé de se présenter aux élections, de participer, de tout faire pour faire changer la loi et pour faire évoluer les choses.
Alors je me tourne vers Arthur Renaud qui est avec nous à distance depuis Rennes. Vous avez mené des entretiens avec de nombreux militants pirates. Les pirates qui ont donc cette revendication du hacking, cette culture du logiciel libre, qu'est-ce que ça véhicule exactement comme valeur ?
L'idée, c'est par rapport à ce que disait Julia Reda tout à l'heure, c'est il y a une forme de subversion, sans forcément que le Parti Pirate soit révolutionnaire ou incarne cette forme de violence révolutionnaire, mais il y a quand même effectivement cette idée de subversion, d'incarner la piraterie d'antan, d'essayer aussi de retourner les stigmates, comme le disait Goffman par exemple, hein. C'est exactement ce que disait Julia Reda tout à l'heure, c'est utiliser l'appellation négative que l'on a contre nous pour en faire un étendard et réussir justement à le mettre en évidence et essayer de rassembler sous cette identité.
Alors en République tchèque, Arthur Renaud, les pirates utilisent le terme de communauté. On peut parler de sous-culture du parti pirate. Et par quoi se manifeste-t-elle cette sous-culture ?
Bah, tout à l'heure, ça a été abordé. J'ai entendu le terme de cyberculture. C'est effectivement totalement ça. Hein. C'est l'idée de s'inscrire dans des processus idéologiques. Alors, parler d'idéologie pour le Parti Pirate, c'est peut-être un peu trop. Plutôt de matrice idéale, par exemple, hein, avec, comme cela a été dit, le mouvement du logiciel libre. C'était aussi le mouvement libertarien de l'Internet avec John Perry Barlow. Enfin bref, il y a énormément de figures. Il y a aussi la contre-culture hippie. Enfin bref, c'est un mélange de courants intellectuels qui ont formé la dynamique pirate. Bon, après, comme on a pu le constater, il y a des divergences au niveau des différents pays, ce qui n'est pas nécessairement non plus très négatif et qui est plutôt intéressant d'ailleurs d'un point de vue de mon point de vue de chercheur en tout cas.
Et Florie-Marie, pour rester sous la sous-culture, concrètement, entre vous, vous utilisez des pseudonymes dans vos forums?
Alors oui, quand en fait on a ce principe de pseudonymat. Moi, j'utilise toujours mon vrai prénom. C'est parce que j'ai pas de problème. C'est juste que j'ai choisi. Mon prénom est assez bizarre, donc il est suffisamment bizarre pour passer pour un pseudonyme. Mais oui, beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, quand on s'était rencontrés, j'avais parlé de mon ami qui avait un pseudonyme particulier et tout de suite on n'avait pas fait le rapprochement, en fait on parlait de la même personne. Et effectivement on a ce principe là parce que déjà l'engagement pirate, il ne nécessite pas de faire partie que du parti pirate. On peut très bien faire partie d'un autre parti politique et du parti pirate. Nous, on n'est pas jaloux, contrairement aux autres partis, et du coup on garde pour nous notre vraie identité et on milite au sein du parti pirate pour faire changer les choses aussi dans les autres partis politiques. Il y a ce côté-là aussi, on ne considère pas l'entrisme chez nous, ça n'existe pas en fait. Donc il y a plein de pirates qui sont aujourd'hui adhérents du parti pirate, leur parti, leur vrai parti ne le savent pas, et qui militent sous pseudonyme, et c'est vrai que je connais très peu de personnes qui utilisent un vrai prénom, effectivement.
Arthur Renaud, je vous donne un pseudonyme, vous vouliez compléter?
Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai vu dans les entretiens que j'ai pu faire des militants pirates qui me disaient assez régulièrement quand tu retranscriras tes entretiens, tu mettras pirate avec un grand P. Donc il y avait aussi des gens qui avaient la volonté, effectivement, qui étaient d'abord pirates avant d'être membres du parti pirate, qui pensaient que c'était un état d'esprit, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qu'on peut retrouver, par exemple, aussi chez les Verts, hein, si on peut faire l'analogie. Mais je sais pas si aujourd'hui, par exemple, au Parti Socialiste ou à En Marche, on aurait la même verve vis-à-vis de cette caractéristique identitaire.
Mais alors, vous disiez tout à l'heure, Florie-Marie, que vous étiez écologiste à l'origine. On entendait Sven Clément, qui je crois était socialiste avant. Donc, les pirates ne sont pas tous des nouveaux en politique?
Pas tous, beaucoup, mais pas tous. On a beaucoup de néophytes, hein. Il y a énormément de pirates en plus qui débarquent complètement, qui connaissaient le parti pirate avant ou qui ont découvert au fur et à mesure le parti pirate au fur et à mesure de leur engagement militant. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, on vient pas d'un autre parti politique forcément, on est souvent des nouveaux.
Arthur Renaud, vous avez essayé de vous livrer à une petite sociologie des militants pirates. Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Ce que Florie-Marie vient de dire, d'abord. Effectivement, il y a beaucoup de nouveaux entrants dans le militantisme, partisans. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà milité dans des associations, souvent des associations qui sont en lien avec la culture geek. Alors, à prendre avec précaution ce terme, évidemment, mais des rôlistes ou des choses comme ça, par exemple. Et surtout, beaucoup de gens qui ont un lien professionnel avec l'informatique connectée, c'est-à-dire l'informatique pure ou tout ce qui est lié au numérique.
En revanche, ce sont des petites bases militantes, hein, dans les partis pirates. Pour la République tchèque, 900 membres, c'est très peu, hein, pour un grand parti d'opposition aujourd'hui. En France, vous êtes 200 à peu près, hein, c'est ça?
240.
Est-ce que cette petite base ne vous fragilise pas?
Non.
On a la chance d'avoir des personnes qui ont un petit bagage politique avec eux. Donc c'est vrai que les nouveaux arrivants, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont jamais fait de politique. Donc ils débarquent un peu et puis ils ont envie de changer les choses et puis ils veulent aller très vite et puis ils se fatiguent très vite aussi. Donc c'est assez compliqué. Mais c'est quand même la fraîcheur de ces nouveaux militants. Ça nous aide beaucoup aussi à garder toujours le cap. On est des pirates après tout. À garder le cap et à aller dans le sens de toujours plus loin dans notre réflexion. On n'est pas nombreux, on a une petite base militante vraiment très active, on a beaucoup de développeurs, mais c'est aussi une force aussi parce que c'est vrai qu'on a quasiment que ça, mais c'est une force parce que ça nous permet aussi de développer des nouveaux outils et aujourd'hui on a nos propres outils qu'on a nous-mêmes développés pour la démocratie interne, enfin pour la prise de décision en interne et ça, je pense que peu de partis politiques peuvent revendiquer ça en fait.
Mais alors justement dans ces outils, vous avez des forums où tout le monde peut s'exprimer, vous avez créé cet outil pour voter de façon délégative. Donc il y a tous ces outils effectivement très participatifs à disposition, mais comment est-ce qu'on passe ensuite de cette organisation très très horizontale à la désignation de représentants qui seront ensuite reconnus comme légitimes?
Alors là, vous parlez de représentants. Si les pirates vous entendent, et je pense qu'ils vous entendent, ils vont vous dire non, mais chez nous, on n'a pas de représentants.
on a quand même entendu là des figures du mouvement pirate. C'est un peu inéluctable, même si on s'en défend.
Forcément, au bout d'un moment, on aura toujours des personnes qui vont sortir un peu du lot parce qu'on est dans un système représentatif. On a des élections.
Vous êtes présidente.
Moi, je suis pas présidente, non, du parti pirate. Non, moi, je suis porte-parole. Parce que l'année dernière, en fait, on a revu entièrement nos statuts. On a tout réécrit, on est reparti de zéro parce qu'effectivement avant on avait une organisation très, très horizontale, enfin horizontale traditionnelle et l'année dernière on a tout remis à zéro, on est reparti vraiment de la base et on a décidé d'avoir une organisation complètement horizontale. Donc aujourd'hui on n'a plus de président, on n'a pas de représentant, tous les pirates sont invités à participer à la prise de décision et à participer à l'élaboration du programme. On a effectivement des porte-parole, on en a quelques-uns, moi je fais partie des porte-parole, mais moi ce que je porte comme parole c'est pas mon avis à moi, c'est la parole du Parti Pirate. Je ne peux pas donner mon avis, je ne peux pas raconter ce que j'ai envie de raconter. Et ce que je viens vous apporter comme parole ici, c'est de vous dire au Parti Pirate, on n'a pas de représentant.
Et est-ce que vous n'êtes pas trop ambitieux, comme le disait Sven Clément dans le reportage, avec ce concept de démocratie liquide? Alors je crois que vous allez confirmer que vous n'utilisez plus d'ailleurs ce mot, hein, qui peut un peu bloquer les personnes qui s'intéressent.
On l'utilise toujours un peu parce qu'on a l'habitude, c'est liquid feedback, liquid démocratie, c'est un anglicisme un peu de dire démocratie liquide, on dit maintenant démocratie délégative pour que ça montre un peu mieux ce que ça représente. La démocratie délégative, en deux mots, c'est le fait de pouvoir donner sa voix à quelqu'un ou voter pour prendre une décision. Donc soit on vote, soit on donne sa voix à quelqu'un, mais pas sur un mandat. On vote pas pour quelqu'un, on vote pour une idée, on vote pas pour une personne. Donc ça modifie complètement la façon de prendre les décisions. Effectivement, c'est très ambitieux, mais après tout, on est en France. Donc en France, on a quand même c'est quand même le pays des Lumières, c'est quand même là que sont nées toutes les républiques, toutes les gouvernances de tous les pays, enfin de la plupart des pays qui aujourd'hui se disent libres, et c'est peut-être à nous aussi de montrer un peu la voie et de dire voilà, nous on propose autre chose de différent, on va plus loin, on veut aller vers une démocratie, une vraie démocratie, parce que on a tendance aussi à considérer que la République c'est la démocratie, mais le Parti Pirate, on n'est pas forcément d'accord avec ça, parce que à la base, la République, ça s'opposait à la démocratie.
Justement, Florie-Marie, là, quand on vous entend, on ne peut pas s'empêcher de penser au mouvement des Gilets jaunes. Mmh. Vous lui avez apporté votre soutien. Dans quelle mesure est-ce que vous retrouvez dans ce mouvement ?
Il y avait le côté d'organisation complètement horizontale. Il y avait le côté aussi de pas de représentants. Et puis, il y avait aussi ces revendications. Là, en ce moment, on entend beaucoup parler du référendum d'initiative citoyenne. C'est aussi quelque chose qu'on porte dans notre programme. Un programme qui a été voté et qui a été décidé par tous les partis pirates européens sur lequel on travaille depuis avant l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Donc, c'est pas nouveau pour nous. On avait déjà, d'ailleurs, une forme de référendum d'initiative citoyenne dans notre programme il y a 3 ans. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on porte depuis longtemps et on dénonce bien sûr toutes les violences, qu'elles soient d'un côté comme de l'autre. Hein. On sait bien qu'il y a des violences des deux côtés, mais on dénonce tout ça. Mais par contre, on porte beaucoup d'idées similaires, en tout cas de réformes démocratiques et de reprise du pouvoir par le peuple, en fait.
Arthur Renaud à Rennes, vous vouliez réagir?
Ah oui, non, effectivement, mais ce que je trouve intéressant, c'est ce que c'est assez présent dans le vocable pirate, c'est replacer le citoyen. Là, j'entends Flory qui disait replacer, redonner le pouvoir aux citoyens, etc. Mais enfin bref, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que dans les faits, le citoyen a jamais vraiment eu de pouvoir en démocratie telle que conçue actuellement. Donc c'est vrai que ce genre d'initiatives sont intéressantes, mais par rapport à la démocratie liquide, par exemple, il y a aussi des effets pervers potentiels qui nécessitent peut-être des aménagements futurs pour éviter une forme de démocratie représentative rampante qui pourrait revenir par le biais de cette délégation qui pourrait se routiniser et engendrer de fait une forme de représentativité tacite qui se met en place.
Alors, Florima...
Donc, il faut aussi faire attention effectivement au dispositif, mais voilà.
Flory Marie, c'est pas évident d'avoir des représentants, c'est peut-être indispensable quand on veut monter une liste pour les européennes, c'est compliqué de monter cette liste ?
C'est compliqué de trouver... c'est toujours compliqué de trouver 79 noms. En fait, ce qui est toujours compliqué, d'ailleurs, j'ai vu récemment que vous avez fait pas mal de reportages là-dessus, c'est compliqué de trouver des femmes, en fait. C'est toujours, pour tous les partis politiques, tout le temps, ça a toujours été compliqué de trouver des femmes en politique.
Prêtes à se mettre en avant.
Et... Voilà, c'est pas évident pour les femmes. Et puis, mais le parti pirate reste quand même très ouvert, de toute façon. Et c'est très compliqué aussi de monter une liste aux européennes, parce qu'il y a une question d'argent derrière, et une question de budget qui est assez impressionnant. Et puis l'investissement qu'on va faire, on n'est pas sûr de pouvoir le récupérer, parce que pour pouvoir récupérer tout l'argent qu'on va investir dedans, il faudra faire un certain score, 3% hein, pour les européennes. Et ça, l'atteindre, ça va être assez difficile. Donc oui, c'est difficile, mais on garde espoir quand même. Je voudrais juste revenir sur ce qu'Arthur Renaud a dit tout à l'heure.
Très brièvement.
Juste brièvement, c'est juste... Je pense qu'effectivement, on a besoin de pédagogie, en fait. En Suisse, ils ont mis en place le référendum, enfin la démocratie directe, mais avant de le mettre en place, ils ont appris aux gens comment ça fonctionnait. En France, on n'a pas ça. Il faut qu'on apprenne, qu'on réapprenne la démocratie, je pense, sincèrement.
Merci Flory Marie, merci Arthur Renaud, merci. Et merci à France Bleu Armorique pour la liaison. Partie pirate, immersion dans les cyberpartis européens. Le grand reportage de cette semaine était signé Anne Fauquemberg, réalisation Annie Bro, avec Clément Daté à la technique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.